Salut à tous mes chers amis, c'est Christian Mythologie Astrale, si vous m'avez trouvé c'est que vous êtes plutôt futé et on se retrouve dans ce nouvel épisode du podcast qui est un format spécial que j'appelle l'Astro Commentaire où on va parler aujourd'hui d'un manga qui me tient beaucoup à cœur, je crois même que c'est mon manga préféré. Alors ça c'est vraiment un bold statement parce que j'ai plein de mangas préférés, enfin plein, j'en ai au moins 5. Et en fait celui-ci, pourquoi c'est mon préféré? J'aurai le temps de vous l'expliquer dans l'épisode. En attendant, je remercie les Patreons, grâce à qui beaucoup de choses sont possibles en ce moment. Donc vraiment, merci du fond du cœur pour votre soutien. Si vous saviez à quel point vous m'aidiez et vous m'avez aidé pour les Patreons du passé, je pense que ça vous mettrait du baume au cœur et vous pourriez être fiers de vous, enfin, d'avoir contribué à ça. Pour moi, Patreon, c'est vraiment un mode de mécénat moderne et vraiment, les artistes qui peuvent bénéficier de ce type de soutien sont vraiment chanceux et sachez en tout cas que pour ma part, ça va complètement faire la différence et vous pourrez avoir la fierté et l'orgueil de vous dire que vous avez participé, en tout cas que vous avez mis votre pierre à l'édifice. Shaman King, c'est un shonen, donc c'est des mangas pour garçons. Bon, ça c'est le Japon, ils aiment bien faire comment dirais-je, ils aiment bien faire des démarcations, enfin leur marché, il est très 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 segmenté. Hein, garçon, fille, enfant, adulte, adolescent, c'est hyper segmenté. Bon, vous me direz dans la littérature, et particulièrement dans l'édition, c'est pareil de notre côté du monde aussi, mais chez eux, c'est quand même un autre level. Shaman King, c'est un shonen qui a été écrit et dessiné par Hiroyuki Takei. Et je me souviens, quand j'étais petit, je mettais vraiment un point d'honneur à connaître par cœur les noms et prénoms de mes mangaka préférés. Et en fait, j'ai oublié qu'il s'appelait Hiroyuki Takei. Et voilà, c'est un manga qui a été prépublié. Alors, il faut savoir qu'au Japon, on prépublie les mangas avant de les publier. Et donc, il y a des magazines qui sont spécialisés dans la prépublication. Et il y a évidemment des magazines stars dans lesquels les mangas qui sont prépubliés dans ces magazines deviennent des best-sellers. C'est automatique, en fait. Parmi ces magazines-là, il y a un magazine hebdomadaire qui s'appelle le Weekly Shonen Jump. Et il est édité par un méga-éditeur qui s'appelle Shueisha. Voilà. Et donc, il faut savoir que c'est un manga qui est sorti en 32 tomes. Et qui a ensuite été adapté en série d'animation. Et aujourd'hui, on va surtout parler de la série d'animation et particulièrement de l'adaptation de la série d'animation sur Netflix, puisque Netflix a cette lubie de créer des nouveaux formats pour les animés, notamment pour les licences qui sont populaires. Et c'est marrant parce que c'est pas juste les licences qui sont populaires qui sont prises par Netflix, c'est aussi les licences de niche en fait. Bon, vous me direz, One Piece, c'est pas du tout de la niche. Mais voilà, c'est quand même important de le savoir. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai trop de trucs à dire. Franchement, j'ai trop de trucs à dire. Et je sais que vous ne pouvez pas entendre mon climatiseur, mais je vais juste le désactiver parce que moi, je peux l'entendre et que ça me stresse de ouf. J'ai dit, je veux l'entendre et ça me stresse de ouf. Voilà, tu t'éteins, merci. Voilà, alors, je sais même pas par où commencer parce qu'il y a tellement de choses à dire. Déjà, vous devez deviner pourquoi c'est mon manga préféré. C'est mon manga préféré parce qu'il parle de chaman, il parle d'esprit, il parle de Dieu, il parle du monde des morts, du monde des vivants, il parle de karma, il parle de péché, il parle de. En fait, il parle de tellement de choses, mais tout ça dans un cadre qui est hyper jeune, hyper rafraîchissant. Le personnage principal, il s'appelle Yo Asakura. Et en fait, on a déjà parlé dans les astro-commentaires de l'archétype du magicien. Et enfin, je suis même ému rien que d'en parler, mais je pense que c'est l'un des archétypes du magicien les plus réussis qui m'a été donné de lire. Bon, évidemment, le meilleur, c'est Willy Wonka dans Charlie et la chocolaterie, c'est le premier roman que j'ai lu. Mais voilà, en tout cas, dans le domaine des mangas et compagnie, en tant qu'archétype du magicien, c'est juste un des meilleurs, quoi. C'est dingue, quand même, le bruit de la mer. J'ai l'impression que je suis dehors alors que la fenêtre, elle est fermée, quoi. Attendez, je vais juste vérifier que la fenêtre, elle soit bien fermée. Bon, il n'y a rien à faire, mais bon, l'essentiel c'est que vous n'entendiez pas. Et voilà, et moi c'est pas grave si j'entends, le bruit de la mer m'apaise, il m'aide à dormir, surtout en ce moment j'ai plein de soucis. Je suis au Brésil, valise perdue, téléphone volé, donc vous imaginez the ghetto of the situation, mais les choses vont s'arranger par la grâce de Dieu. Et donc on revient sur Shaman King. Voilà, donc c'est fantastique. C'est vraiment, franchement, surtout pour une audience ben, tous les auditeurs du podcast qui sont très spiritualités, pour certains, ils sont vraiment clairement dans le chamanisme, les religions et les spiritualités d'Amérique latine et compagnie, etc. C'est vraiment pour vous parce que c'est juste un manga et un animé qui sont fantastiques. Alors moi, je vais surtout parler de l'animé parce que c'est celui que j'ai regardé quand j'étais petit. Donc je pense qu'il y a plus d'une centaine d'épisodes de l'animé, voire même plus, parce qu'il y a eu beaucoup de saisons en fait de Shaman King. Et en fait, j'ai juste envie, après avoir vu le remake en fait de Netflix, j'ai juste envie d'acheter les 32 tomes du manga en fait. Voilà, d'un coup, tu sais, et de tous les défoncer, parce que j'ai pas lu le manga en fait. C'est marrant, hein. Mais bon, en même temps, moi, je suis né dans la fin des années 90, donc je suis vraiment une génération télé. Et c'est vrai que, bon, je lis beaucoup, hein. C'est mon dada, la littérature. Mais en tout cas, en ce qui concerne la culture manga, elle est surtout venue à moi à travers la télévision et pas forcément à travers les mangas. Déjà, pourquoi? Parce que ça coûte moins cher de regarder un animé que d'acheter je ne sais combien de tomes de manga, surtout en France, où en fait, les mangas coûtent très cher. Voilà. C'est la différence peut-être avec le Japon. Et je pense que c'est voulu. À chaque fois que vous voyez un produit culturel qui coûte extrêmement cher en France, c'est qu'on ne veut pas qu'il devienne populaire, en fait. Plus on met ça cher, plus on veut pas qu'il devienne populaire. Moins ça coûte cher, plus on veut qu'il devienne populaire. Donc c'est facile de deviner ce qu'on a toujours voulu en France rendre populaire, c'est les livres de poche, c'est la littérature grand public, c'est la littérature de gare, comme on dit. Voilà, c'est ça qui est vraiment qu'on a voulu rendre populaire. Par contre, les mangas, ça dérange pas les éditeurs de les vendre 13 euros le tome, alors que ça vaut peanuts au Japon, quoi. Enfin bref, ça c'est encore un autre sujet. Et donc l'histoire, de quoi ça parle en fait, Shaman King? Shaman King, déjà tout est dans le nom, c'est le roi des chamans, et en fait c'est un tournoi qui est organisé tous les 500 ans pour désigner le chaman le plus puissant. Et les Japonais ils sont forts à ça, ils prennent des éléments des cultures qui ne leur appartiennent pas, et ils les remixent avec leur propre culture pour en faire des univers qui sont complètement nouveaux. Et en fait Shaman King, c'est l'histoire de Yo Asakura, qui est l'héritier de la famille Asakura, sauf que quand il est né, il est né avec un frère jumeau. Qui est diabolique en fait. Et dans le premier animé, il s'appelle Zeke, dans le manga, il s'appelle Ao. Et lui, il s'appelle Yo. Voilà. Donc je suis sûr qu'en plus, si on analyse les prénoms, moi je parle pas japonais, mais il doit y avoir une signification sur les deux. Donc ils sont jumeaux, sauf qu'il y en a un qui est diabolique et l'autre qui est bon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Ao, donc le méchant, est la réincarnation d'un puissant chaman du passé, qui s'est déjà réincarné plusieurs fois au fur et à mesure des siècles. Pour pouvoir cultiver de l'énergie, pour pouvoir faire des choses. Et en fait, il s'est réincarné jusqu'à se réincarner 500 ans plus tard, après sa vraie naissance, pour pouvoir clamer le titre de roi des chamans, en fait. Voilà. Et en étant roi des chamans, il accède, en fait, au trône suprême qui lui donne l'accès au roi des esprits. Et en fait, c'est hyper beau, rien que d'en parler, ça me donne déjà des frissons. Le roi des esprits, en fait, comment ils le décrivent dans l'animé, dans le manga, en fait, c'est l'Esprit Saint, quoi. Et seul le chaman le plus digne, donc la personne qui communie avec les esprits, qui est la plus puissante, la plus sage, la plus digne, peut accéder au roi des esprits. Et en fait, voilà, déjà, juste le décor, il est posé. Donc, on a des milliers de chamans à travers le monde et dans des cultures complètement différentes. Et c'est ça que j'aime avec les animés. Quand j'y pense maintenant, j'ai beaucoup plus de recul et beaucoup plus de connaissances sur le marché, l'industrie, etc. Et en fait, c'est ça que j'aime avec les animés des années 90. Surtout de la fin des années 90, du début des années 2000, c'est qu'ils avaient vraiment cette dimension mondiale, en fait. On regardait un animé, mais l'animé, il parlait de choses et d'éléments culturels qui venaient du monde entier. Donc, en fait, on se sentait pas. C'est vraiment la globalisation. Franchement, je pense que la fin des années 90 et le début des années 2000 a vraiment marqué un tournant dans la globalisation, enfin, pardon, la mondialisation de la culture nippone, quoi. C'est vraiment là que la culture nippone, elle est devenue, entre gros, 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 gros guillemets, universelle, quoi. Et effectivement, on a des chamans qui viennent de la culture des Inuits, on a des chamans qui viennent de la culture germanique, donc en fait là c'est plus des chamans, mais bon, chaman ça devient un terme générique pour désigner quelqu'un qui sait manipuler des éléments qui viennent du monde des esprits. Et donc du côté de l'Allemagne, on a le descendant de Faust, hein, le mage noir qui a théorisé beaucoup de choses dans le domaine de la nécromancie et qui a réellement existé. On a en France. Une espèce de jeune fille chrétienne, j'ai oublié son nom, mais qui est super chrétienne, voilà, elle invoque un esprit qui permet de guérir, voilà, c'est très miraculeux, elle est accompagnée par des gens qui s'appellent les X-Laws, donc X c'est 10 en latin, donc les 10 lois, les 10 commandements, donc c'est un peu le groupe un peu judéo-chrétien, on va dire, de l'animé. Enfin, moi, je peux vous parler de ça pendant 10 heures, donc je vais essayer de rester concis. Et donc, ce tournoi, il a lieu tous les 500 ans. Et donc, Yo Asakura, c'est un personnage qui est hyper désabusé. C'est un mec qui est fainéant, baba cool. Et il a tout le temps son casque sur les oreilles. Et je pense que c'est un truc qui m'a marqué parce que les personnes qui écoutent le podcast et qui me connaissent, et il y en a quand même quelques-uns qui sont même des amis proches, vous savez que j'ai tout le temps mon casque sur les oreilles. Et en fait, je pense que c'est un truc qui me vient vraiment de ce personnage d'animé. L'animé, il est sorti dans le début des années 2000, donc j'étais un enfant très impressionnable et tout. Et je pense que le fait d'avoir vu ça, je me suis dit, vas-y, ben en fait, enfin, il est trop cool, en fait, Yuasa Kura, quoi. Donc il a tout le temps son casque sur les oreilles, il ne demande rien à personne. Et son but dans la vie, c'est de mener une vie tranquille et qu'on lui foute la paix, en fait. Et c'était exactement moi, à 8-9 ans, quoi. Vraiment, je voulais qu'on me laisse tranquille. et donc, Yuasa Kura, il n'est pas seul, il arrive dans un nouveau lycée. Il rencontre Manta. Manta, c'est un peu son sidekick, c'est sa mascotte, hein. C'est le mec qui le suit partout et qui l'encourage et qui le, comment dirais-je, qui l'approuve dans ses actions et qui le désapprouve quand il commet des actes moralement répréhensibles. On a voilà, plein de personnages secondaires, on a des espèces de voyous, des bandits qui finalement vont se ranger du côté du bien et accompagner Yo dans sa quête. On a, comment elle s'appelle, Anna. L'Itako, donc une Itako chez les Japonais, pareil, c'est pas vraiment une chamane, mais c'est une prêtresse avec des perles. D'ailleurs, un système de perles qui sûrement appartient au bouddhisme, hein, mais qu'on retrouve aussi chez les chrétiens. Enfin bref, en fait, ce manga est juste très bien écrit. Et je dirais que l'un des points forts en fait de ce manga, c'est qu'il compile énormément de cultures spirituelles, de plein de traditions différentes. Et en fait, ça paraît con, mais regardez ça à l'âge de 9 ans, ça m'avait déjà donné à l'époque une overview hyper large et complexe des différentes religions et des différentes spiritualités qui existent dans le monde. Et pourquoi en fait est-ce qu'elles existent? Parce que le manga est très bien écrit, donc au-delà de vous dire ok ça existe, c'est ça qui se passe en Allemagne, c'est comme ça qu'on travaille avec les esprits en France, c'est comme ça qu'on travaille avec les esprits aux États-Unis, etc. Il y a beaucoup de métaphores, c'est vraiment un animé qui est extrêmement riche. Et qui permet de, au-delà de voir en fait ces cultures, de comprendre pourquoi elles existent. Et en ça, je trouve que Shaman King, c'est vraiment un animé, un manga, ce que vous voulez, une œuvre qui devrait être étudiée en sciences de la religion, parce que ça donne vraiment, je trouve, une overview assez intéressante du paysage religieux mondial, en fait. En tout cas, des grosses religions. Et vraiment, il y a tout. Je me rends compte en regardant, j'ai vu le remake, et le remake, franchement, chapeau, on va y venir au remake, mais d'abord, je commence par l'histoire principale. Toutes les cultures sont représentées, quoi. Bon, évidemment pas toutes. Hein. La Guinée-Papouasie, elle n'a pas été représentée, mais en tout cas toutes les cultures spirituelles importantes dans le monde, donc qui comptent des millions d'adeptes, sont représentées. Vraiment, des cultures indonésiennes, en passant par le vaudou haïtien, qui est représenté aussi. Enfin, c'est juste incroyable, quoi. Tout le monde, enfin, en tout cas moi, c'est juste incroyable. Donc, ce tournoi a lieu et Yo doit réunir une équipe pour aller se battre dans ce grand tournoi qui va élire le Shaman King. Et il doit le faire pour deux raisons, déjà pour lui, et également pour vaincre son jumeau maléfique Ao, qui en fait veut contrôler le monde. Et si jamais il réussit à avoir le grand esprit, il va juste terrasser en fait tout chaman qui veut s'opposer à lui et complètement contrôler en fait le monde, quoi. Donc il faut tout faire pour que cet être maléfique qui n'était même pas censé s'incarner, mais qui s'est incarné de force dans l'utérus de la mère de Yo, sauf que ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'elle ait des jumeaux. Et donc en fait, ça a divisé son pouvoir en deux, ce qui est terrifiant parce que quand on voit à quel point il est puissant dans l'animé, ben en fait, ça vous laisse juste deviner à quel point il serait puissant s'il avait ses deux moitiés ensemble. Et en fait, lui, son rôle en tant qu'antagoniste, ça va être de pourchasser, de persécuter Yo pour l'absorber en lui et ainsi, voilà, devenir super puissant et retrouver en fait sa stature d'antan. Et Yo, ça va être de l'arrêter en fait. Et vraiment, vous entendez à ma voix comment je suis excité et tout. C'est beau, c'est beau. Et là, on va quitter le manga et l'animé originel et venir un petit peu sur le remake. Et pourquoi je reviens sur le remake? Déjà, un, parce que c'est le sujet de l'astro-commentaire. C'est le remake qui est disponible sur Netflix. Et on ne me paye pas pour ça, je le fais de bon cœur. Hein, autant d'autres trucs, j'étais en mode, voilà, on ne me paye pas, je fais la promo et tout. Là, c'est vraiment, allez-y, vraiment, prenez mon argent, prenez ma promo gratos, allez-y. Parce que c'est juste. Je recommanderais ce truc-là à une personne qui va mourir, quoi, pour que ça lui donne de la paix. Je parle jamais comme ça. Donc voilà, et dans l'animé, ce que j'ai aimé déjà, un, c'est que c'est en 52 épisodes, et quand on sait que c'est au moins 300 épisodes, l'animé originel, chapeau, d'avoir condensé 300 3 ou 4 saisons d'animé en une seule saison de. Enfin, je pense que c'est deux mini-saisons en tout cas de 52 épisodes, donc deux saisons d'au moins 26 épisodes. Et enfin, c'est juste fantastique, quoi. C'est juste fantastique. C'est un balayage de tout l'univers de Shaman King. C'est des compréhensions de tous les personnages, surtout de leur psychologie et de leurs conflits internes. Et c'est ça que j'ai trouvé beau. Et sincèrement, pour être un créatif et pour être un auteur, c'est extrêmement difficile pour un auteur de se replonger dans une œuvre qu'il a déjà écrite et de lui donner un sens qui est nouveau. Parce que les choses ont été posées, elles ont déjà été déplacées à plusieurs reprises pour la création de l'œuvre. Et là, en fait, de déterrer, d'exhumer en fait l'œuvre pour lui redonner une nouvelle vie, c'est extrêmement difficile. Et franchement, chapeau, parce que je sais que l'auteur a participé à l'écriture du remake et ça se sent parce qu'il a beaucoup de choses à dire. Et en fait, la sagesse qui se trouvait déjà dans un manga, quand même, qui est pour les jeunes garçons, donc excusez-moi, hein, mais les mangas pour jeunes garçons, c'est pas les plus deep. Hein, c'est des mangas de baston, de machin et tout, c'est vraiment pas les plus profonds. Mais là, je trouve qu'il y a une profondeur. Et la preuve, en fait, le héros est dans un mage arc, il est dans un arc du magicien. Son archétype, c'est le magicien, forcément. L'archétype du magicien est beaucoup plus profond, complexe et multidimensionnel que l'archétype du guerrier ou du soldat. Ce que je trouve fantastique avec le manga, c'est, comme je vous ai dit, le balayage des différentes cultures, mais aussi la psychologie des personnages. Il y a énormément de choses à apprendre sur les personnages, d'un point de vue humain, d'un point de vue esprit et même d'un point de vue animal. Et ça, c'est vraiment la grâce de cet anime Shaman King, c'est que l'auteur, il est vraiment allé dans le détail des choses. Et en fait, en regardant le remake, il y a beaucoup de choses, même sur l'anime, que j'ai compris que je ne comprenais pas avant. Tout est symbolique, tout a une signification. Tout a du sens, il n'y a rien qui est laissé au hasard, il n'y a rien qui est laissé, qui est posé là, comme ça, juste pour faire joli. Évidemment, il y a des petits défauts, hein, comme ça a été condensé en 52 épisodes, il y a des événements qui se passent trop vite, il y a des choses qui ne sont pas toujours compréhensibles, il y a des comportements qui paraissent parfois incohérents ou irrationnels, mais ça, c'est le propre de la condensation, de l'histoire. Les actions s'enchaînent de manière tellement rapide que parfois, on ne comprend pas toujours la logique qui est derrière les actions. Mais franchement, ça c'est de bonne guerre parce que derrière, c'est du lourd quoi. C'est vraiment du lourd. Donc, je sais pas quoi dire de plus par rapport à Shaman King. Je pourrais vous raconter, franchement, je pourrais vous parler de Shaman King jusqu'à demain. Parce que, comme je vous ai dit, c'est mon manga préféré. Et pourquoi c'est mon manga préféré? Parce que c'est, selon moi, une manière inclusive, populaire, gracieuse, pas moralisatrice. De diffuser massivement de la sagesse divine aux gens, en fait. Voilà. Il dit beaucoup de choses sur le monde des esprits, beaucoup de choses sur la mort, beaucoup de choses sur l'immortalité de l'âme, beaucoup de choses sur la transcendance, beaucoup de choses sur la possession aussi, beaucoup de choses sur les démons, la différence entre les démons et les anges, la différence entre les esprits des défunts qui sont en paix et les esprits des défunts qui sont tourmentés. Pourquoi est-ce que les esprits sont tourmentés? En fait, toutes les questions que moi je me posais en tant qu'enfant sur la mort, parce que malheureusement j'ai perdu ma grand-mère extrêmement jeune, hein. Ma grand-mère elle est partie à 64 ans, pas son âme, et moi-même j'étais jeune quand elle est décédée, je pense que j'avais 12 ans, ouais, j'avais 12 ans, et en fait c'est chiant 12 ans parce que t'es assez grand pour comprendre que la personne elle va pas revenir et qu'elle est vraiment morte, mais en même temps t'es trop jeune pour tout comprendre de ce que ça signifie en fait. Et du coup, j'avais plein de questions, et évidemment, dans une période de deuil, surtout que ma grand-mère, c'était vraiment la matriarche, en fait, de la famille, bah, personne ne voulait répondre à mes questions. Et pour être sincère, moi, c'est ce qui m'a lancé, en fait, dans mon chemin de destinée. C'est ce qui m'a poussé à me poser des questions. C'est ce qui m'a poussé, donc, à faire des recherches pour obtenir des réponses à ces questions. Et c'est ce qui a construit, en fait, mon socle de connaissances que je partage avec vous aujourd'hui. Donc, vous devez beaucoup, à Shaman King et tous les animés qui m'ont permis de répondre, en tout cas, de trouver des pistes de réponses à ces questions. Moi, ce que je trouve fascinant dans cet animé, c'est pas juste, comment dirais-je, c'est pas juste le contexte, le sujet, etc. C'est vraiment ce que ça dit du monde dans lequel on vit. En fait, c'est trop beau, Shaman King, parce que c'est, en gros, imaginons-nous, c'est horrible ce que je vais dire, en plus, c'est pas forcément vrai parce qu'il y a plein de gens qui écoutent le podcast qui sont hyper consuméristes, hyper capitalistes, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent le podcast qui sont des travailleurs de lumière, qui sont des personnes qui pratiquent le chamanisme, qui sont des personnes qui pratiquent la prière, qui sont des personnes qui pratiquent la méditation. Bref, on est des êtres de lumière, hein. Et imaginons en fait que demain on se dise, bah, le monde il est gouverné par des gens qui n'ont aucune spiritualité, qui n'ont aucune croyance, dont la seule croyance c'est, comment dirais-je, le capitalisme et le profit et le toujours plus. Imaginons en fait que toutes les personnes spirituelles et tout du monde se disent collectivement, en fait, on va se débarrasser de la race humaine. C'est un peu le plot en fait de Shaman King, c'est on vit dans un monde où ils sont en train de, chacun a ses raisons, hein. Ororo, qui est un chaman qui vient de la culture inuite, il veut récupérer le grand esprit parce que pour lui, l'homme est en train de détruire la nature et la nature doit reprendre ses droits et on doit vivre dans un monde en harmonie avec la nature. En fait, c'est ce qui est beau aussi. Chaque chaman qui veut devenir le roi des chamans a un agenda politique en fait. Et enfin, man, j'en perds mes mots, mais enfin, ça me rappelle trop les années 70, 80, quand le mouvement New Age avait vraiment une dimension politique. Hein. Ce n'était pas juste des gens en mode kumbaya dans l'herbe à poil en disant ouais, c'est la pleine lune, donc faisons une orgie à la lumière de la pleine lune. Non, c'est des gens qui avaient un agenda politique, c'est des gens qui avaient des motivations, c'est des gens qui avaient des ambitions, c'est des gens qui combinaient la spiritualité et le savoir spirituel avec la politique pour vraiment créer du changement social. Et ça, en fait, on est en train de parler de choses concrètes, et on est en train de parler de choses qui peuvent réellement changer le monde. C'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, la spiritualité, c'est devenu de l'esthétique, hein. Les pierres, l'encens, et compagnie, etc. C'est vraiment devenu esthétique. Et je dis pas que c'est une mauvaise chose parce que tous les mouvements ont une dimension esthétique, mais je trouve que le mouvement New Age s'est complètement dissolu dans cette dimension esthétique. Voilà. Et il a perdu en fait de sa teneur politique. D'ailleurs, pour la petite anecdote, vous allez vraiment me détester, mais en fait, j'avais un mec sur les côtes il y a quelques années, et en fait, il était vraiment sur mes côtés. C'est pas que je voulais me débarrasser de lui, mais je voulais vraiment tester ses intentions. Faut toujours tester les intentions des gens. Parce que des fois, les gens sont juste enflammés par leur propre truc, et voilà, en fait, ils sont pas sincères. Et je lui ai dit, écoute, si tu m'aimes vraiment, achète-moi un bouquin sur l'agenda politique du mouvement New Age. Et je savais très bien que c'était un bouquin qui coûtait, enfin je sais plus combien il coûtait, je crois qu'il coûtait 150 balles. C'est vraiment pas le bouquin que vous trouvez sur Amazon comme ça, machin, parce qu'il est difficile à trouver et tout. Et le mec l'a trouvé, il me l'a envoyé chez moi. Et en fait, voilà, bref, c'était la petite anecdote pour dire qu'il y a des écrits là-dessus, si c'est un sujet qui vous intéresse. Malheureusement, évidemment, c'est pas traduit en français. Mais voilà, c'est pour les personnes qui lisent en anglais, moi je peux vous donner la référence et tout. Vous m'envoyez un mail et je vous donne la référence avec plaisir. Mais c'est un super bouquin que j'ai pas fini de lire parce qu'il est immense et hyper complexe, même en langue anglaise, mais qui nous donne énormément de pistes de réflexion justement sur la dimension politique du mouvement New Age, quoi. Et je suis hyper content que l'idée soit sortie de mon cerveau parce que je me suis dit, oh là là, comment je vais pouvoir dire vraiment ce que j'ai à dire par rapport à Shaman King? Mais en fait, c'est ça, c'est une espèce de battle royale politique et militaire pour gagner le pouvoir suprême et gouverner le monde, en fait. Et que ce soit les chamans africains, les chamans asiatiques, les chamans américains du nord, du sud, les chamans européens, tout le monde vient avec son propre agenda et ses propres spécificités culturelles. Et je ne sais pas pourquoi je suis ému en vous en parlant, mais je me dis, waouh, en fait, si c'était réel, je pense que, évidemment, le monde serait en danger parce que les êtres humains ne sont pas parfaits, etc. Mais je me dis, waouh, si seulement c'était vrai, en fait, et que on avait une chance, en fait, de proposer une autre alternative que celle du profit, du capitalisme, d'une raison qui est certes basée sur la logique, mais une logique, en fait, qui est mercantile, hein, une logique qui n'est pas la logique de l'esprit, qui n'est pas la logique du cœur, qui n'est pas la logique de l'âme. Et je me souviens, j'ai beaucoup pleuré à la fin comment dirais-je? J'ai beaucoup pleuré à la fin de Shaman King, donc l'originel, hein, je sais plus, il y a eu 300 épisodes, un truc comme ça, parce que je me suis dit, waouh, au moins, pendant que cet animé il était diffusé, même si à l'époque, bon, Internet, c'était pas ce que c'était maintenant, donc les gens n'avaient pas des conversations deep, en fait, sur Shaman King, mais je me suis dit, waouh, au moins, dans mon cerveau, j'avais cette conversation. Qu'est-ce qui se passerait si, effectivement, on laissait la nature reprendre ses droits? Est-ce qu'on peut vraiment laisser la nature reprendre ses droits? Faut-il, comment dirais-je, faut-il mettre des lois sur, comment dirais-je, non, plutôt la question c'est jusqu'où on peut aller dans la manipulation de la vie et dans la manipulation de la mort. Ça aussi c'est une question qui est hyper présente dans l'animé, hein, avec la nécromancie, les gens qui manipulent la mort et la magie de guérison de je crois qu'elle s'appelle Jeanne. et la magie de guérison de la petite nana là, des X-Lao, je crois qu'elle s'appelle Jeanne, je suis pas sûr, mais il me semble qu'elle s'appelle Jeanne et c'est un clin d'œil à Jeanne d'Arc, je crois. Mais voilà, de cette nana française, en tout cas originaire de la France, elle a grandi au Mont-Saint-Michel, qui elle manipule la magie de la vie. Voilà. Mais elle manipule la magie de la vie d'une manière qui est assez sombre au final. Tandis que Faust manipule la magie de la mort d'une manière qui est quand même assez belle. C'est Faust, quelque part, c'est l'archétype d'Orphée, qui est fou amoureux en fait d'Elisa et qui refuse de la voir mourir, en fait, qui continue à l'aimer alors qu'elle n'est plus là. D'ailleurs, Shameless Plug, vous pouvez continuer à commander votre Orphée sur l'adresse email de Mythologie Astrale. Et vous pouvez vous rendre sur mythologieastrale.com si vraiment le travail des archétypes vous intéresse et que vous n'avez pas forcément les moyens de vous prendre une prestation personnalisée. Shameless plug terminé. Voilà, donc c'est plus qu'un animé, vraiment. Et je suis tellement content que ce soit sorti de ma bouche et de mon cerveau parce que je vous avoue qu'avec tout ce qui se passe au Brésil, j'ai pas eu le temps de. J'ai plus le temps de réfléchir en fait. Je suis que en mode exécution. Et je me suis dit, oh là là, faut vraiment que j'enregistre cet épisode. Et en même temps, je me suis dit, oh là là, j'ai pas encore assez maturé le truc pour prendre l'épisode, mais voilà. Qu'est-ce que serait le monde si les travailleurs de lumière entraient dans l'arène politique, par exemple? Demain, on a l'association des voyantes de France qui décide de créer un parti. Demain, on a l'association des je sais pas moi, des travailleurs spirituels qui décident de créer un parti politique, quoi. Demain, on a la Confédération internationale des travailleurs de lumière. Donc dedans, vous mettez tout le monde, hein, les voyantes, les machins, même certains masseurs. Qui pratiquent, comment dirais-je, des masseurs énergétiques, donc qui pratiquent le Reiki. Vous les mettez tous ensemble et vous dites, vas-y, venez, on crée un parti politique et on essaie de faire bouger les lignes, quoi. On essaie de mettre en place des politiques culturelles ou des politiques de ville qui sont vraiment centrées autour du bien-être. Mais pas seulement du bien-être physique, où en fait c'est l'argent rentre dans les poches de Big Pharma, mais du bien-être physique et spirituel, et où l'argent rentre dans les poches de gens qui vont vous aider en fait à aller mieux quoi, à mieux vous connaître, à je sais pas, à mieux vivre, à relativiser certaines choses, à fermer définitivement la porte à une période de deuil, à une période de dépression, etc. Enfin bref, toutes les bonnes choses en fait que les travailleurs de lumière pourraient apporter à la société. Et c'est ça qui me rend triste, c'est que je me dis, mais il y a tellement de gens qui veulent faire le bien. Il y a tellement de gens qui veulent faire le bien et on les laisse même pas donner leur avis, on les laisse même pas tenter leur chance parce qu'ils n'ont pas une forme et une approche qui est conventionnelle et capitaliste et mercantile. C'est pour ça que moi j'ai toujours mis un point d'honneur à avoir une approche de l'astrologie et de tout, hein, de la spiritualité, qui n'exclut jamais la dimension business. Voilà. Moi je serai jamais cette personne, enfin je touche du bois, hein, bas, mais je serai jamais cette personne qui va faire faillite ou banqueroute parce que j'ai mal géré mon business. Voilà. Et ça, je pense que si toutes les voyantes de France et tous les tarologues de France avaient cette approche-là, les gens nous respecteraient plus en fait. Mais en fait, il y a tellement de gens qui sont en mode Kumbaya, la vie est belle, j'ai trois plumes dans mes fesses et Dieu fera et machin, qu'en fait, les gens ne nous prennent pas au sérieux. Là, aux États-Unis, on commence à prendre au sérieux les astrologues qui sont devenus des hommes d'affaires. Des tarologues qui ont monté des business, etc., parce que c'est le seul langage qu'ils comprennent. Et malheureusement, on est dans des communautés où c'est mal vu de faire de l'argent. L'argent lui-même est mal vu, alors que en fait, l'argent, c'est une énergie spirituelle et un capital spirituel comme un autre, en fait. Voilà. Hein. Si le mal est un esprit, si le bien est un esprit, si, je sais pas, moi. Le plaisir est un esprit, pourquoi est-ce que l'argent n'en est pas un en fait? Pourquoi l'argent n'est pas une énergie aussi? Enfin, en tout cas, en plus, quand on étudie certaines religions et certaines spiritualités d'Amérique et d'Afrique, l'argent est une énergie, l'argent est un esprit, hein, qui peut être manipulé, qui peut être maîtrisé, etc. Voilà, bref, je referme la parenthèse, mais tout ça pour dire que le manga aborde tous ces sujets-là de manière profonde, avec humour. Faut pas oublier ce que j'ai dit au début de l'émission, c'est un manga qui s'adresse aux jeunes garçons. Donc c'est tout est fait avec humour, dérision. D'ailleurs, enfin bon, je suis un peu gêné de dire ça, mais le manga il est super. J'ai pas envie de dire queer parce que ça me casse les couilles queer. En plus aujourd'hui ça veut plus rien dire queer parce que tu peux être un mec hétéro, tu mets du vernis noir, tu te lèves le matin avec ton vernis noir et ça y est t'es queer. Donc moi je vais arrêter d'utiliser queer parce que c'est devenu un terme qui est galvaudé. Tout le monde est queer maintenant. Voilà, tout est queer et tout le monde est queer. Donc plus rien n'est queer en fait. Mais je trouve quand même qu'il y a une dimension un peu queer, dans le sens vraiment artistique du terme, Dans Shaman King, tous les héros portent, enfin peut-être pas tous, mais en tout cas la majorité des héros portent des petites tenues. Et en fait c'est marrant parce que la majorité des héros c'est des garçons. Et au début je me suis dit mais c'est dingue parce que le mangaka qui a fait le truc c'est un mec, c'est pas une nana. Bon j'irai revérifier parce que peut-être que c'est une nana, mais d'ailleurs il est fort possible que ce soit une nana parce que les personnages féminins sont vraiment complexes. Vraiment, vraiment, vraiment complexes. Donc c'est... Mais bon, les Japonais sont forts. Mais ouais, quoi, genre, je pense au personnage de Ryu, enfin, qui est super sexy, en fait. Enfin, c'est... Non, mais... C'est... En fait, pourquoi je vous dis que le manga, il est gay as fuck? Il est pas gay as fuck, mais il est quand même super sexy, quoi. Le personnage de Ryu, c'est un bandit, en fait, qui est le boss d'une chef... le boss d'une bande de voyous dans la ville de Tokyo, et qui martyrise, en fait, un peu tout le monde. Et comment il croise le chemin de Yo, en fait, il s'attaque à Manta, son meilleur ami du lycée, et Yo vient à sa rescousse. Et pareil, lui, il est tout le temps, il est déjà, il est super disco, donc moi j'adore la banane, le look rétro, funk, etc. Enfin, moi j'adore. Et en fait, au fur et à mesure de la série, on lui fait évoluer son style, on fait évoluer son apparence et tout. Et en fait, il devient cette espèce de badass super beau, super musclé, avec sa petite tenue en cuir, en crop top, pantalon taille basse, sa petite clope et tout. Et je me dis, merde, c'est un personnage de fiction, mais damn! Et en fait, c'est pareil pour Yo, enfin, même pour tous les personnages. Il y a plein de scènes où ils sont nus, parce qu'en fait, le lieu principal où les héros se retrouvent, en fait, c'est les bains. Vous savez, les Japonais, ils ont des bains, je crois que ça s'appelle Onsen, ou Fonsen, je sais plus. Et en fait, ils ont des bains chauds, où les gens, enfin, c'est vraiment courant au Japon et tout, ils ont des bains. Et donc, ils sont tout le temps à poil. Ils sont tout le temps à poil. Et au-delà de ça, au-delà d'être tout le temps à poil, ils ont vraiment plein tous des petites tenues. Et en fait, je pense que le paroxysme de ça, c'est un personnage qui s'appelle. Comment il s'appelle Oh là là, Lizergue. Lizergue. Et je me souviens de tous les personnages, Lizergue, c'était mon préféré parce que son esprit allié, son esprit gardien, c'était une fée. Et pourquoi c'est une fée? Parce qu'en fait, il est originaire de Grande-Bretagne, donc il y a tout cet héritage gaélique. Et tout. Enfin bref, c'est trop. J'ai envie de pleurer. C'est trop beau, c'est trop bien écrit, c'est hyper cohérent, c'est hyper logique et ça apprend énormément sur les cultures du monde entier. Et en fait, Lizergue, c'est vrai qu'il fait très twink, quoi. Il est très soumis, il est très, enfin voilà, quoi, très mignon, il est très féminin alors que c'est un garçon. Il est très jeune aussi. Enfin bref, c'est hyper problématique. Et en fait, il quitte. Ben, je vous spoil de ouf, mais bon, le manga il est sorti il y a 30 ans, hein, donc à un moment donné, faut s'y mettre. Et en fait, il quitte l'équipe de Yo pour rejoindre les X-Laws, parce que les X-Laws, ils sont vraiment en mode, on veut buter Ao, parce qu'il a tué plein de gens, c'est un meurtrier, c'est un assassin, on veut le buter. Et Yo, il est un peu en mode, bon, je veux aussi être le roi des chamans, ça m'intéresse pas forcément de pourchasser Ao et de le buter, quoi. Et du coup, Lizergue, en fait, il les quitte et il se retrouve chez les X-Laws. Et en fait, le boss des X-Law. Attendez, parce qu'il y a un mec qui m'a trouvé un appart là. Yes. How do I take it? Ah ouais, je parle en anglais, traduit en portugais, brésilien. Ensuite, je retraduis en français. Et machin, franchement. Franchement, et vous savez quoi, petite parenthèse, j'ai une très bonne auditrice du podcast qui a décidé de bosser pour le podcast et spoiler alerte. Elle travaille sur le lancement du podcast sur TikTok. Donc je sais que c'est un truc que vous avez attendu depuis longtemps, donc je vous révèle un peu le truc en exclu, parce que je sais que les astro-commentaires, c'est pas non plus le format qui est écouté par tout le monde. Et je respecte à 200 milliards de pourcents. Hein. Tout le monde n'est pas branché manga, tout le monde n'est pas branché série. Donc je respecte à 200% le fait que voilà, le format, ce ne soit pas le format préféré de tout le monde. En attendant, j'ai oublié ce que je voulais vous dire. Et c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Ah si si si, Issan, elle me disait, pardon putain j'ai dit son blaze, c'est pas grave. Elle me disait quoi, elle me disait quoi? Elle me disait que je traverse mon retour de Saturne. En fait c'est normal que ce soit la merde et que j'ai l'impression que ce soit la fin du monde. Et vous savez quoi? Fort de sa sagesse, je me suis rappelé qu'en fait le principe même d'un retour de Saturne en poisson, c'est l'illusion. C'est l'illusion de penser qu'on va mourir, c'est l'illusion de penser qu'on va être condamné, c'est l'illusion de penser que... tout va mal se passer, c'est l'illusion de penser qu'on est rejeté, c'est l'illusion, dans mon cas, c'est l'illusion de penser que je serai malheureux toute ma vie, parce que j'ai Saturne en poisson en maison 5. Bref, tout ça pour dire que, en plus, c'est marrant parce que quand j'ai découvert Shaman King, je me demande si c'est pas une période où il y a eu beaucoup de mouvements, en tout cas dans le ciel, qui sont liés aux poissons. Hein. Je me demande si c'est pas une époque où Uranus n'était pas en poisson. Enfin, il faudrait que je vérifie, j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais je me demande si pendant la publication de ce manga, Uranus n'était pas en poisson. Parce que je pense que, enfin, sans prétention aucune, je pense que ce manga a libéré beaucoup de gens spirituellement. Moi, en tout cas, personnellement, il a libéré mon imagination, mais vraiment à un point que vous pouvez même pas imaginer. Voilà, c'est comme si je passais de Sangoku normal à Sangoku Super Saiyan 5 après avoir regardé ce manga parce que j'ai juste trop appris en fait. Anyways, je reviens sur le manga, donc l'Izerg, qui se retrouve avec les X-Laos, donc cette espèce de groupe un peu. Enfin, leurs esprits gardiens, c'est des anges, c'est même des archanges d'ailleurs. L'archange Raphaël, l'archange Raguel, l'archange Michael, l'archange Gabriel, etc., etc. Et en fait, ce que je trouve oufissime dans le truc, c'est que bah, il se retrouve dans ce groupe-là, et le boss de ce groupe, j'ai oublié son nom, mais son esprit gardien, c'est l'archange Saint-Michel. Et en fait, le mec, enfin, bon, à chaque fois qu'il se prépare à vraiment se battre, il arrache sa chemise, et en fait, on se rend compte que, enfin, genre, il a un crop top en dessous, il a juste un short, le short est super court, et en fait, il a dit une phrase dans l'animé qui a fait écho à d'autres phrases qu'il a dites un peu plus tôt bah, dans la publication de l'animé, et je me suis dit, oh là là, mais en fait, c'est super tendancieux. Il a dit, ouais, tu dois te dépêcher de devenir. Tu dois te dépêcher d'affirmer tes convictions et ta foi. Avant que ta voix ne change, que tes poils ne poussent et que tu deviennes un homme, hélas. Et en fait, ça m'a trigger de ouf quand il a dit ça, parce que vous n'êtes pas sur Patreon, donc vous n'avez jamais entendu cet épisode, mais j'ai un épisode du podcast où je parle en fait de l'ancien temps et de pédérastie et de l'institutionnalisation de la pédérastie. Soit j'en parle en faisant un astro commentaire, soit j'en parle directement sur Patreon. En tout cas, je sais que c'est l'épisode qui a convaincu beaucoup de personnes queer et LGBT qui m'écoutent de dire, ah ouais, en fait, le mec, il dit des trucs grave intéressants et grave tabous. Parce que c'est vraiment un sujet qui n'est pas abordé aujourd'hui. Et aujourd'hui, on dit non, faut pas parler de pédérastie, c'est un truc du passé, etc. Alors que c'est une vraie culture, la famille. C'est une vraie culture. On vit dans un monde de pédérastes. Voilà. Et je le dis en haut, en clair, en toute transparence, on vit dans un monde de pédérastes. Où en fait c'est tout à fait normal pour un homme qui a énormément d'argent et qui a 250 balais d'aller draguer, dragouiller des mecs qui ont 18-19 ans et même pourquoi pas 25, j'en ai rien à foutre parce que dès lors où on a deux ou trois fois l'âge de la personne, je suis désolé mais il y a un problème. Et évidemment il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent donc elles savent très bien que ça marche aussi avec les jeunes filles et qu'il y a beaucoup de mecs de 70 ans, leur délire c'est de sortir avec des nanas qui ont 20 ans. Voilà. Et comme ils ont beaucoup d'argent, ils pensent qu'ils peuvent se permettre de le faire. Tout ça, là, c'est un système de pédérastie qui a été institutionnalisé dans la Rome antique, dans la Grèce antique, à Sparte, ou encore Sparte, Rome. Je sais plus dans quel épisode j'en parle, mais je sais qu'il y a un épisode où je détaille tout parce qu'un soir, j'ai pété un câble et j'étais en train de lire, en fait, des archives d'affaires judiciaires qui concernent, en fait, des pédérastes dans l'histoire de partout, en fait. Et j'ai trouvé un site où, en fait, on peut trouver ces archives-là pour l'Empire ottoman, pour la Grèce antique, pour la Rome antique, pour l'Égypte antique, pour la Chine impériale. Et comme ça, on a plein de profils et de cas comme ça où on peut le voir. Je suis désolé, je suis parti hyper loin alors que de base, on parlait de Shaman King et de l'Izerg. Mais bref, quand il a dit ça, le personnage de. En fait, les Japonais, ils sont trop forts. En fait, c'est-à-dire que. Quand j'étais petit, je ne pouvais pas détecter ce genre de nuances parce que je ne connaissais pas ce genre de choses. Maintenant, je connais un peu ce genre de choses et malheureusement, j'ai vu ça aussi autour de moi. Ça dépend des milieux, mais j'ai vu ça autour de moi. Et en fait, je me dis, je suis sûr qu'ils ont fait exprès parce que la manière dont il l'a dit, c'est une manière très codée de se trahir en tant que pédéraste. Et en fait, je suis sûr qu'il faut que je lise le manga, mais connaissant l'auteur, il est hyper sarcastique et tout, et hyper cynique. Je suis sûr que dans le manga, il y a encore plus d'indices et de trucs qui poussent en fait dans cette direction-là. Et ça, c'est un code de pédéraste, en fait, de dire oui, avant que ta voix ne change et que tes poils ne poussent, parce que tout l'intérêt des pédérastes, c'était surtout de profiter. D'ailleurs, je dis 18 ans, 18 ans, mais les pédérastes, en fait, c'était beaucoup plus jeune, hein. C'était 13 ans, 14 ans, c'était des mecs prépubères, en fait. Et en fait, tout le truc, c'était de choper des mecs prépubères, de profiter d'eux jusqu'à ce qu'ils deviennent fous, parce qu'à l'époque, clairement, les mecs, en fait, ils devenaient fous et ils se pendaient. Et de profiter d'eux, quoi. Et en fait, quand le personnage, il a dit ça, je me suis dit, ah ouais, merde, c'est réel, quoi. Et puis même, les postures des personnages, les trucs, les Japonais, c'est trop des pervers. Franchement, moi, C'est trop des pervers, wesh. Anyways, bref, tout ça pour vous dire que comme vous avez pu l'entendre, on parle de cul, on parle de politique, on parle d'esprit, on parle d'agenda spirituel, on parle de géopolitique mondiale, on parle de consumérisme et de capitalisme, on parle de la nature, on parle de l'esprit, de la mort, de l'âme. Bref, c'est vraiment un manga où il y a tout et je pense que rien que pour ça, c'est mon manga préféré. Voilà, que je le dise clairement. Et pourtant, Sailor Moon, c'est un manga que j'adore. Hein. Vraiment, Sailor Moon, j'ai pas envie de blasphémer, donc je vais pas dire que c'est ma Bible. Mais il y a énormément de sagesse dans Sailor Moon, quoi. Mais Shaman King, c'est juste un autre niveau. Et autant Sailor Moon, c'est une œuvre qui est universelle et tout, autant le fait que ce soit une œuvre qui ne concerne que des nanas, ou en tout cas où les personnages principaux, pardon, c'est des nanas, il y a quand même ce truc de blocage, même si c'est un manga et un animé qui est culte, hein, donc tout le monde connaît Sailor Moon, hein, que tu sois un mec macho et misogyne, anti-femme et tout, tu sais très bien ce que c'est Sailor Moon. Ou que tu sois une nana féministe et compagnie, tu sais très bien ce que c'est Sailor Moon. Mais je trouve quand même que Shaman King, il y a cette espèce de coup de maître où en fait il a mis toute cette sagesse dans un enrobage de bonbons sucrés qu'on donne en fait à des petits garçons. Et je me dis, mais les mecs qui ont grandi en ayant pour Shaman King leur manga préféré, mais c'est sûr que c'est devenu. Bon, c'est sûr que c'est devenu, faut pas exagérer non plus, un manga, c'est pas l'éducation des enfants, mais en tout cas, c'est sûr que ça a planté des graines qui pourraient potentiellement, s'ils arrosent bien ces graines, devenir quelque chose de vraiment intéressant, quoi. Et je pense qu'on voit ça très bien à la fin du remake, que je vais pas spoiler, où on voit en fait les personnages à l'âge adulte et dans leur vie d'adulte. Certains ont eu des enfants, d'autres se sont exilés dans d'autres pays, etc., etc., quoi. Donc c'est vraiment des choses pas mal. Et puis surtout, enfin, j'ai tellement envie de vous spoiler, mais je vais pas vous spoiler. Donc vraiment, c'est sur Netflix. Jetez-y un œil. Regardez au moins les deux premiers épisodes. Juste, franchement, même si la partie spirituelle elle vous attrape pas, l'humour va vous attraper. Et moi, je prie juste Dieu de me donner la créativité, 1/100 de la créativité de l'auteur de Shaman King. Qui s'appelle, c'est très important, Hiroyuki Takei. Et en fait, Hiroyuki, je pense que c'est un homme. Hein, je vois pas comment c'est un homme. Voilà, juste qu'on me donne 1/100 de sa créativité pour que moi-même je sois capable de proposer des histoires qui ont une dimension spirituelle aussi profonde. Et en même temps, voilà, qu'à la fin de la journée, ce soit des barres, des rires, des pleurs, comme une bonne histoire qui traiterait de n'importe quel autre sujet, quoi. Voilà, avoir la grâce de toucher à des sujets aussi durs, aussi moraux, aussi profonds, avec légèreté, avec humour, avec bienveillance, et en incluant un maximum de culture possible et en n'en faisant pas quelque chose de, voilà, d'occidental ou occidental, mais vraiment quelque chose qui parle au monde entier, en fait, quoi. Moi, je suis un petit enfant du Mexique avec ma culture spirituelle, d'héritage un peu aztèque, etc. Mais je suis hyper fier de regarder Shaman King. Je suis en plus, ils font la part belle à la culture amérindienne dans Shaman King. Je suis un Africain et je vois que dans la compétition du Shaman King, il y a une équipe qui utilise le vaudou pour pouvoir arriver quand même jusqu'en quart de finale, etc. Mais je suis super fier en fait. En fait, c'est la Coupe du monde de football spirituel, quoi, le truc. Enfin, c'est juste incroyable. En tout cas, si vous voulez apprendre à me connaître, regardez cet anime et il y a beaucoup de choses sur moi que vous allez comprendre à travers le personnage de Yo. Même si j'aimerais bien avoir sa paix, quoi. Moi, je suis quand même un peu plus stressé et un peu plus anxieux que lui. Scorpion maison 1, Pluton Scorpion maison 1 conjoint à l'ascendant, avec le nœud nord en Scorpion. Mais clairement, voilà, s'il y a un personnage de manga pour enfants, pour garçons qui me ressemble, c'est vraiment Yo Asakura, quoi. C'est WAM. Et je pense qu'il ne vous décevra pas. Donc voilà un petit peu pour cet astro-commentaire. C'est marrant parce que je voulais qu'il soit extrêmement court. Et finalement, j'ai fait 43 minutes à l'ancienne. Mais voilà, il mérite ces 43 minutes, il mérite même 2 heures de plus. Et si je pouvais faire ça en 3 parties, je le ferais. Mais je dois trouver un appartement parce que je me fais mettre dehors dans 2 jours. Et sur ce, je vais visiter un appartement. À très vite.